Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bien, nous pouvons commencer, même si je suis sûr que d'autres pendules dans ce horloge, dans ce Collège de France, doivent marquer une heure un peu différente. Mais celle-ci est plus avancée, donc il serait, semble-t-il, 10h01. Je rappelle donc que les conférences de Lodovica Braida se poursuivront la semaine prochaine avec une première mardi 15 décembre à 14h30 et toujours dans la salle 5 qui sera consacrée au genre imprimé de l'art circulation. Et puis la dernière aura lieu le vendredi 18 décembre avec le thème « L'auteur absent, la réflexion sur la propriété littéraire au XVIIIe siècle », ce qui est une manière de faire retour sur des thèmes que l'on avait abordés au début de cette série de cours. Je rappelle donc que pour ce cours qui est l'avant-dernier, la semaine prochaine sera le dernier cours, le jeudi à 10h. Et je rappelle aussi que ce soir, à 16h, le séminaire traitera du deuxième volet d'une étude commencée la semaine dernière il y a 15 jours, sur Montaigne et les censeurs et la relation entre les essais et la censure romaine. Donc, dans ce cadre-là, le propos du cours était, en ces derniers temps, de réfléchir sur un double mouvement qui peut nous approcher de la réponse à la question qui servait de titre du cours, qu'est-ce qu'un livre ? C'est-à-dire d'un côté un mouvement que l'on peut appeler un mouvement de rassemblement, de reliure, de mettre ensemble, le mécanisme qui fait qu'une série d'écrits devient en un certain moment une œuvre qui a une unité intellectuelle, esthétique, et possiblement cette œuvre s'inscrivant dans un objet qui la caractérise par sa matérialité et qui est le livre. Donc ce processus qui fait que se constitue une unité entre le discours et l'objet. Et face à ce processus, un processus inverse, qui est un processus de dissémination, de dispersion, lorsque cette unité à la fois textuelle et codicologique, le livre dans sa matérialité de codex et dans son unité intellectuelle d'œuvre, le plus souvent garantie par le nom propre de l'auteur, devient une ressource ouverte pour une fragmentation, c'est-à-dire une circulation du texte, mais sous la forme d'abrégés, d'extraits ou de citations. Et il me semble que cette dialectique entre rassemblement et dispersion, entre reliure et dissémination ou fragmentation, est un élément essentiel pour comprendre les formes de circulation de l'écrit dans la première modernité, mais aussi peut-être dans les temps contemporains. J'avais essayé d'illustrer ce double processus en prenant l'exemple de Shakespeare, puisque d'un côté, on avait les premiers moments par lesquels ou dans lesquels se constituait une œuvre shakespearienne par le rassemblement d'un certain nombre, pour le moins, de pièces, sinon de poèmes. Et vous vous souvenez d'une tentative de 1619 du libraire Thomas Pavir et puis la construction du folio en 1623, et inversement et de manière contemporaine, une circulation des mêmes œuvres, cette fois-ci avec une priorité peut-être donnée aux poèmes sur les pièces, sous la forme de présence de citations de Shakespeare dans des recueils de lieux communs. J'en avais marqué deux, tous les deux publiés la même année, 1600. Le premier que j'avais eu le temps d'analyser rapidement la fois dernière et qui était ce recueil, le Belvédère. Et aujourd'hui, je voudrais « The Belvedere or the Garden of the Muses » ou « Le jardin des muses ». Anthony Monday comme libraire-éditeur, et vous vous souvenez aussi que derrière cette entreprise de lieux communs qui sont fondés sur des extraits ou des citations d'auteurs contemporains écrivant en anglais, on avait un un mercier, un marchand mercier, John Bodenham, qui avait au point de départ des formes imprimées à ses propres recueils de lieux communs. Et le second recueil, paru cette même année 1600, a pour titre England's Parnassus, le Parnasse de l'Angleterre, et il a pour éditeur Robert Hallott, à deux LOT, et comme imprimeur Nicolas Ling. Et là, j'avais situé comme un moment de réflexion sur ce passage d'un des recueils à un autre des recueils, cette discussion qu'on retrouvera sur la signification du guillemet, et le guillemet tel qu'on l'entend ou l'utilise aujourd'hui pour marquer la propriété d'un auteur sur un énoncé, donc du côté de la singularisation, de l'individualisation, et de l'autre côté, cette utilisation des guillemets non fermés, et souvent même qui ne sont que des virgules, doubles virgules inversées, qui dans les textes des XVIe et XVIIe siècles désignent tout à l'inverse ce qui est un énoncé universel et qui peut appartenir à tout un chacun. Donc, en un certain sens, d'effacer la singularité de l'auteur au profit de l'universalité de l'énoncé, alors que nos guillemets modernes sont justement la manière de marquer la propriété de l'auteur sur un énoncé ainsi fortement individualisé. Alors, ce deuxième recueil, England's Parnassus, le Parnasse de l'Angleterre, a pour sous-titre « The choicest flowers of our modern poets », les plus belles fleurs, les fleurs les mieux choisies de nos poètes modernes. Et effectivement, il est un recueil fait à partir de poètes ou de dramaturges quasi contemporains ou contemporains écrivant en anglais. Shakespeare y est très présent avec 30 citations extraits de 5 pièces, les plus citées étant Roméo et Juliette, 13 extraits, et Richard II, 7 extraits, mais aussi présent avec 26 citations venues du poème Vénus et Adonis, et 39 venues du poème The Rape of Lucrece, le viol de Lucrèce. À la différence du recueil précédent, c'est-à-dire du recueil sur Belvédère, les citations sont plus longues, elles ne sont pas une seule phrase ou un seul vers, mais une série de plusieurs vers. Elles sont attribuées, chacune d'entre elles, sous forme d'initiale ou d'un nom propre en entier, à leur auteur, et ici le plus souvent W.S.H., William Shakespeare. Et du coup, cette citation plus longue, qu'on va le voir, qui peut avoir jusqu'à 7-8 vers, attribuée à un auteur, devient totalement décontextualisée par rapport au texte, puisque pour des pièces de théâtre, elles sont détachées sans mention du nom du personnage qui les énonce. Donc elles sont détachées du caractère, du personnage, de l'individu que représenté dans le drame, et parfois même il peut y avoir la conflation dans une seule citation de énoncés qui appartiennent sur la scène ou dans l'édition imprimée du théâtre à plusieurs personnages. Il y a donc un effacement du rapport entre énoncés et personnages, et d'autre part, du coup, elle se trouve bien entendu détachée totalement de l'intrigue dramatique à l'intérieur de laquelle ces citations prennent place. On a là une tension fondamentale entre ce qu'on peut reconnaître comme étant la volonté par un dramaturge de caractériser des personnages non seulement par des traits liés à leur état social ou à leur manière d'être, mais aussi à leur manière de dire. Et de l'autre côté, le fait que les pièces de théâtre peuvent servir comme ressource, répertoire pour des recueils de lieux communs où sont annulées ces différences dans la situation d'énonciation au profit d'une universalité de l'énoncé. Et je crois que c'est une autre tension tout à fait importante dans la forme d'appropriation, de circulation des textes, dont on trouvait des traces au XVIIIe et même aujourd'hui, lorsqu'on a des recueils de citations de Shakespeare qui mettent totalement entre parenthèses ou effacent totalement la localisation dans la pièce et d'autre part l'attribution à tel ou tel caractère, comme si Shakespeare, finalement, d'une manière borgésienne, était l'ensemble des personnages qu'il a pu inventer. Donc on a ces caractéristiques tout à fait différentes du deuxième recueil par rapport au premier recueil de England's Parnassus par rapport à le Belvédère. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a un continuum ici entre extraire des vers des poèmes et extraire des vers ou des phrases des pièces, ce qui montre que la technique des lieux communs, puisqu'elle est fondée sur un ordre thématique, peut annuler, effacer des différences aussi entre les genres, non seulement entre les personnages et l'auteur, mais aussi entre les différents genres. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est de comparer le statut de même extrait dans ces deux recueils. Belvédère, England's Parnassus, publié la même année, 1500. On peut le faire avec un exemple précis qui viendrait... Enfin, on pourrait le faire avec tous les exemples lorsque le même texte a donné source à des citations dans l'un et l'autre des recueils. Mais c'est le cas en particulier pour une strophe du Rape of Lucrece, le viol de Lucrèce. La stanza, la strophe dans le poème lui-même, et qui avait été publié en 1594, avec, face aux différents vers, les inverted commas, les guillemets inversés, qui indiquaient qu'on était face là à un lieu commun, peut se lire ainsi, je prends la traduction, le rivage en vue, se noyer, c'est double mort. Tis double death to drown in ken of shore. Voir des vivres 10 fois plus affame l'affamée, et voir longuant rend la blessure plus douloureuse. Ce qui devrait guérir alourdit lourde peine, douleur profonde coule comme un fleuve serein qui, arrêté, submerge les rives qui l'enserrent. Retardé, il n'a plus de loi ni de limite. Cette idée que plus on s'approche de la possibilité de la survie ou de la guérison ou du fait d'être sauvé, plus cette distance qui reste et qui est plus limitée devient cruelle. Et dans le premier recueil, Belvédère, de 1600, le compilateur n'a extrait que le premier vers. Le rivage en vue, se noyer, c'est double mort. Et en modifiant d'ailleurs le « tis double death » en « it is double death » to drown in ken of shore. Si vous êtes en train de noyer et que vous voyez le rivage, la sensation de la perte est beaucoup plus forte encore que loin de ce même rivage. Et il a situé ce premier vers, le seul extrait de cette stanza sous la rubrique « of grief » de la douleur. Et le vers n'est pas attribué. Et d'ailleurs, ensuite, tout de suite après, dans le recueil, on trouve une citation du poème du poète Samuel Daniel qui est exactement le même vers. Ce qui laisse supposer aussi que le processus que j'analyse et qui est de voir comment des vers deviennent des lieux communs, peut-être penser à l'inverse, c'est-à-dire aussi pour comment des lieux communs déjà établis peuvent être constamment réappropriés et réutilisés par les auteurs. Et il y a une étude très méticuleuse, par exemple, du fameux « to be or not to be » montrerait qu'il y a beaucoup de fragments de cette monologue, qui d'ailleurs est construit comme un exercice académique d'une disputatio, et évoquer les deux hypothèses pour un même argument et ensuite peser le pour et le contre pour chacun des hypothèses, pour chacune des hypothèses et ensuite trancher, peut lui-même, alors qu'il a cette forme d'exercice académique et universitaire de la disputatio, a été construit par Shakespeare avec des réemplois de lieux communs déjà là. Alors on le voit ici, puisque Daniel a le même vers que Shakespeare dans le viol de Lucrèce, qui pourrait laisser supposer à une origine commune pour les deux poètes. Dans England's Parnassus, le compilateur a utilisé les sept vers de la stanza, les a référés à W. Shakespeare et les a classés sous la rubrique non pas grief, la douleur, mais sur la rubrique woe, W-O-E, du malheur. On voit donc qu'elle a une technique qui n'est pas seulement celle, comme on l'a pu le penser, et comme à juste titre elle a été montrée, qui est celle des discours de savoir, c'est-à-dire dans le contexte de la philosophie naturelle, le fait de construire le livre de philosophie naturelle à partir d'un rassemblement de lieux communs et de voir ce même ouvrage ensuite être approprié pour nourrir des recueils de lieux communs. C'est la très belle démonstration qu'a fait Anne Blair à partir du livre de Jean Bodin, Le théâtre de la nature universelle, où elle montre que la composition même, si la forme du livre est une forme de dialogue, néanmoins que la matière du livre est la compilation de lieux communs pour des thèmes ou des topics, par exemple pour un animal donné ou pour une catégorie, les animaux qui résistent au feu. Donc une composition qui est fondée sur des recueils de lieux communs, et on peut supposer que Bodin, qui plaide pour la constitution de recueils de lieux communs pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, avait lui-même composé des recueils de lieux communs sur les réalités du monde naturel. Et lorsque l'on analyse des annotations marginales dans un certain nombre des exemplaires de l'édition latine 1596 du Théâtre de la nature universelle, on voit que les annotations correspondent à, dans ce cas-là, il s'agit de trois professeurs d'université allemande, à un retour thématique et topique de ce qui est dans Bodin donné sous la forme du dialogue, de façon à pouvoir nourrir les propres cahiers des lieux communs du lecteur. Donc c'est cette technique fondamentale pour les discours de savoir sur le monde naturel, elle est aussi une technique de lecture des œuvres poétiques ou dramatiques. La lecture d'un poème, d'un long poème, comme le viol de Lucrèce, peut être à la fois la lecture d'une histoire, mais aussi la recherche de fragments, de citations qui peuvent être réemployés, et de là, ce marché éditorial qui s'est créé avec les recueils imprimés de lieux communs qui, évidemment, facilitent la tâche du lecteur, puisqu'ils sont déjà là, prêts, de la même manière que l'indication en marge, d'une manière ou d'une autre, de vers qui font lieu commun pouvaient faciliter cette utilisation, ce rapport avec le texte poétique. Les effets de cette technique et dans sa traduction typographique ont été une utilisation plus marquée et plus généralisée de ces indications en marge, les guillemets ouverts, les virgules inversées, puisque Nicholas Ling, qui est l'imprimeur du deuxième recueil, England's Parnassus, est aussi l'imprimeur de la première édition d'Hamlet, le quarto de 1603, à jamais fameux par le fait que, comme je l'ai dit, le premier vers de ce monologue déjà évoqué est « To be or not to be high, it is the point », et non pas la forme consacrée depuis le deuxième quarto, lui aussi imprimé par Nicholas Ling en 1604 et 1605, il y a deux émissions. Et dans les deux cas, dans ces deux éditions quarto, les deux premiers quartos d'Hamlet, l'imprimeur Nicholas Ling, mais on peut supposer par préparation préalable du texte, par un correcteur dans l'imprimerie ou par qui a transmis le texte, utilise la technique des guillemets mis en marge pour désigner un certain nombre de répliques comme étant des lieux communs. Et l'analyse méticuleuse de ces vers qui sont ainsi indiqués et qui, malheureusement, dans la plupart des éditions, sinon toutes, n'apparaissent plus avec leurs guillemets au début de ligne. C'est une autre trahison de l'édition moderne. C'est-à-dire que, peut-être parce qu'on a perdu les sens de la technique des lieux communs, rares sont, très rares sont, je vais donner une exception tout de suite ensuite, très rares sont les éditions qui respectaient, comme les éditions anciennes pour tel ou tel état du texte, cette présence d'un marqueur, qui est le marqueur du lieu commun. Et dans le premier quarto d'Hamlet, on voit comment s'opère ce processus de détachement des énoncés par rapport au personnage ou par rapport à l'intrigue, puisque les vers qui sont marqués, à l'inverse de ce qui pourra apparaître au XVIIIe siècle, où il s'agit de marquer les vers les plus beaux, de marquer les fleurs les plus ravissantes de la poésie. Il s'agit ici de marquer ce qui peut avoir valeur d'énoncé universel. Par exemple, on y trouve indiqué, dans le premier quarto, mais aussi dans le second, lorsque Polonius, qui s'appelle d'ailleurs Corambus dans le premier quarto, donne des conseils à son fils Laërte, qui part pour Paris, on a la série des vers suivants qui n'ont aucune importance pour l'action même d'Hamlet et qui ne pourraient pas passer comme étant peut-être le produit le plus achevé du génie poétique shakespearien, mais qui ont, comme vous allez l'entendre, cette valeur d'énoncé universel, ici non pas peut-être dans le registre du sublime, d'une morale commune, mais dans le registre de l'utilité. Voilà les vers qui ont été marqués par des guillemets ouverts, inversés, dans cette réplique de Polonius. « Montre-toi familier », s'adresse à son fils Laërte. « En aucun cas vulgaire, les amis que tu fais, les ayant éprouvés, fixe-les à ton cœur par des cercles d'acier, mais ne va pas blaser ta main à recevoir tout blanc bec frais et clos en camarade. Prends garde d'entrer dans une querelle, mais y étant, soutiens-la à faire prendre garde à ton adversaire. Prête l'oreille à tous, ta voix à peu de gens. Prends l'avis de chacun, mais réserve le tien. Aie des habits de prix autant que peut ta bourse, mais sans extravagance. Cossu, mais pas voyant. Car c'est le vêtement qui souvent montre l'homme. Et les meilleurs en France des gens de qualité l'emportent ici surtout en noble distinction. Ne sois ni emprunteur ni prêteur, car souvent on y perd, et le prêt est l'ami. » Et emprunter émousse le tranchant d'une bonne gestion. Ce sont les vers, sauf deux, qui ont été marqués. Et les deux qui ne sont pas marqués comme étant des lieux communs, c'est l'allusion plus particulière à « Et les meilleurs en France des gens de qualité l'emportent ici surtout en noble distinction. » Puisque tout ce qui peut particulariser dans le temps et dans l'espace des énoncés qui doivent avoir une valeur détachée de toute circonstance n'est pas lieu commun. Et donc, le soin méticuleux de ces guillemets en marge a été de marquer tous les vers que j'ai donnés, sauf les deux qui se rapprochaient de l'intrigue, Laërte part pour la France, et d'une circonstance, les manières de s'habiller dans le cas français. Tout le reste, qui sont des assez grandes platitudes quant à des conseils à donner pour le voyageur ou le jeune homme qui se trouve dans une situation étrangère, a été marqué par l'éditeur, et on pourrait, par le correcteur et par l'imprimeur ensuite. On pourrait multiplier les exemples de ces indications où vous le voyez ici, le personnage n'importe guère, la situation doit être effacée, la particularité doit être oubliée au profit d'une réplique qui peut avoir valeur de lieu commun dans conseil donné à un jeune voyageur pour être la rubrique dans un cahier de lieu commun. Alors, cette présence des marqueurs des lieux communs dans les deux premières éditions d'Hamlet peut marquer en elle-même deux éléments importants. L'un qui est que même pour un quarto comme le premier quarto qui passe pour être le résultat d'une reconstruction mémorielle, non pas du tout un texte qui soit directement venu d'une transcription ou d'une chaîne de transcription du manuscrit shakespearien, ce qui expliquerait pourquoi ce premier vers du monologue d'Hamlet, « High is the point », en perdant beaucoup de la substance même de ce qu'est la « that is the question », c'est-à-dire « that is the question », quelle est la question au sens de la disputatio académique, et donc totalement affadie par « it's a point ». Donc, ce très mauvais quarto, au sens classique de la bibliographie shakespearienne, qui est la moitié du texte du quarto de 1604-1605, qui montre des incompréhensions de ce que pouvait être tel ou tel mot, qui montre aussi des variations très grandes selon les personnages entre le texte qu'il donne et ce qu'est le texte du second quarto, comme si finalement c'était peut-être une troupe d'acteurs qui avait reconstruit de mémoire le texte ou qui utilisait les parts, c'est-à-dire le rôle, sans avoir le manuscrit entier de la pièce. Donc c'est un monde immense d'hypothèses sur ce premier quarto. La conclusion est son état peut-être lié à des représentations, mais en tous les cas très éloigné de ce que l'on peut penser comme étant la pièce telle qu'elle a été écrite par Shakespeare et dont une image plus exacte serait donnée par le deuxième quarto. Néanmoins, malgré cela, on voit qu'une pièce dans cet état-là du texte est marquée pour la lecture par son éditeur et par son imprimeur, donc ce qui peut la resituer à l'intérieur d'un mode de relation au théâtre, qui n'est pas simplement celui d'assister au spectacle, qui n'est pas simplement celui d'avoir une trace de la pièce achetée dans une édition, mais qui peut être celui de cette lecture dans le paradigme de la technique des lieux communs. Le second élément est que le traitement du texte d'Hamlet de cette manière s'inscrit dans une transformation, puisque avant 1600, toutes les pièces où l'on rencontre cette indication-là, des lieux communs signalés en marge, sont des pièces qui soit relèvent d'une écriture d'amateur, c'est-à-dire non pas des pièces qui sont représentées sur les scènes publiques à Londres, mais qui ont pu être jouées à l'intérieur des universités ou dans un milieu aristocratique. C'est le cas, par exemple, avec les traductions des pièces de Robert Garnier pour la comtesse de Pembroke par Robert Greene. Et c'est un point très important et très intéressant parce que si cette analyse typographique des désignations ou des marqueurs de lieux communs a été surtout menée, ou pratiquement exclusivement menée jusqu'à maintenant, sur le théâtre et la poésie anglaise, avec dès les années 50 un intérêt, un article fameux de Hunter sur ce thème. Pour autant, cette pratique n'est pas ignorée hors d'Angleterre. Et le cas de Robert Garnier, s'il est soumis à ce type de traitement typographique dans les traductions anglaises de ses pièces, il l'est aussi dans les éditions françaises de son théâtre. Un exemple dont vous pouvez prendre mesure, c'est que dans la pièce qui s'appelle « Les Juives », c'est l'une des dernières pièces de Robert Garnier qui a été publiée pour la première fois en 1583 et reprise ensuite dans la troisième édition de ses œuvres en 1585 et qui a une édition chez Folio Théâtre où Michel Jeanneret, professeur à Genève et puis maintenant à Johns Hopkins, grand spécialiste de la Renaissance, d'une manière extrêmement intelligente mais rare, a respecté les guillemets inversés qui marquent un très grand nombre de vers, il faut bien dire, dans le texte de Garnier, tels qu'ils apparaissent dans l'édition de 1585 du texte. Cela permet donc, sur un exemple précis et d'une manière aisée, puisqu'il s'agit d'un livre de poche, de se rendre compte de ce que est un lieu commun pour un correcteur, un libraire-éditeur, un imprimeur. Et on peut prendre des exemples, la fréquence des lieux communs dans les Juifs, qui est une pièce qui porte sur la double trahison du roi de Jérusalem, Sédécie, qui à la fois a trahi Nabucodonosor, qui était son roi légitime, et qui d'autre part a trahi la foi chrétienne, puisqu'il est retourné à l'idolâtrie. Et la pièce est le double châtiment, le châtiment cruel et horrible par Nabucodonosor, lui-même voué par son idolâtrie au châtiment, et d'autre part le châtiment de Sédécie par Dieu, dans la dernière scène, ayant toute sa famille détruite, ayant eu les yeux crevés, il y a comme un repentir final du roi de Jérusalem et l'annonce par le prophète d'un retour à la vraie foi. C'est une pièce qui, évidemment, n'est pas sans rapport dans son intrigue avec la date et le moment des guerres de religion en France. Et dans cette pièce, les moments où il y a des vers marqués et qui peuvent être un seul vers ou qui peuvent être de très longs groupes de plusieurs dizaines de vers apparaissent une fois dans le premier acte, 13 fois dans le second, 8 fois dans le troisième, 10 fois dans le quatrième et 3 fois dans le cinquième. C'est donc une scansion du texte qui est donnée par ces moments où du particulier une histoire narré dans sa spécificité, on passe à des énoncés universels. Trois exemples pour montrer comment fonctionne ce système. C'est dans l'acte 4, les vers 1726, 1720, 1730, pour montrer comment se fait cette décision subtile de décider que tel vers peut être considéré comme un lieu commun et que tels autres, non. C'est le moment où, dans l'acte 4, les reines juives se lamentent devant le sort funeste qui est celui de Sédécie. Et ce sont ces différentes femmes. Quiconque est en malheur ne se peut égayer. Enfants, souvenez-vous de vous rendre agréable, de servir vos seigneurs, de n'être intolérable, superbe ni fâcheux. Las, ce n'est pas à vous de vous enfler de gloire, hein, de complaire à tous. Complaire à tous. Et on voit que ce qui est marqué, c'est simplement le premier vers. Quiconque est en malheur ne se peut égayer. Morale universelle un peu plate, mais enfin, qui fait énoncé général par opposition aux vers qui suivent, qui pourraient paraître comme des lieux communs, mais qui ne le sont pas, parce qu'il y a comme une particularisation avec le « vos seigneurs », parce qu'elle s'adresse à des personnages précis sur la scène. Donc, il y a une recontextualisation qui est donnée par cette situation. Donc c'est un exemple qui ensuite enchaîne sur l'arrivée de la mère de Sédécie, Amital, qui a essayé à la fois de freiner son fils dans son retour à l'idolâtrie et d'autre part à essayer de ployer la bienveillance ou le pardon de Nabucodonosor en échouant dans les deux cas. Et ici, il s'agit d'un très long, enfin, d'une série de vers, 1731 à 1748, et tous sont marqués, et comme on le voit assez souvent, soit le premier vers d'une tirade, soit le dernier, est une indication pour quelle est la thématique du lieu commun dans lequel cette citation pourrait être rangée. Je donne, même si c'est un peu long, le passage de Amital, surtout que les vers de Garnier sont très, très puissants, très beaux. Mais surtout, mes enfants, ayez de Dieu mémoire, servez-le en votre cœur, ne tendez qu'à sa gloire. Cheminez en sa voie et n'en soyez distrait, ni pour commandement qui vous soit honte fait, ni pour crainte de mort. Souffrez la mort cruelle, plutôt 100 fois, que d'être à votre Dieu rebelle. N'adorez qu'un seul Dieu, et que ce Dieu seulement, qui a fait mer et terre avec le firmament, qui peut tout, qui fait tout, immortel, impassible, qui ne se peut comprendre, à nos yeux invisible. Aimez-le et l'honorez. Craignez de l'offenser. Au faux Dieu des gentils, gardez-vous d'encenser. Il en serait jaloux. Jamais ce grand Dieu n'aime qu'on leur fasse l'honneur qui n'est dû qu'à lui-même. C'est lui qui nous fait vivre et qui, pour notre bien, en 6 jours, a bâti tout ce monde de rien. Ne l'oubliez jamais, mes enfants, je vous prie, en tant que vous vivrez, fuyez l'idolâtrie. Et donc le dernier vers, qui est marqué par un guillemet inversé, est la rubrique « idolâtrie ». Et le texte ici cité montre la nécessité de respecter le seul vrai Dieu, le seul créateur, et le courroux que peut entraîner le fait de retourner aux idoles et aux faux dieux. Et on trouverait dans ces mêmes actes 4, alors le plus long, je ne vais pas le lire, des passages marqués comme lieu commun et qui est attribué au cœur, et assez souvent, pas toujours, mais assez souvent dans la pièce, les Juifs, comme dans toutes les pièces de Garnier, il y a un cœur à l'antique, les lieux communs peuvent être aussi dans la bouche multiple du cœur. Et ici, si on prend dans la fin de cette scène de l'acte 4, les vers 1817 jusqu'à... Non, pardon, ce sont depuis les vers 1705 jusqu'à 1820. On voit 56 vers qui font lieu commun et où le marqueur ou la rubrique est donnée par les 4 premiers et par les 4 derniers. Les 4 premiers, las, ah, donc c'est le cœur qui parle, las, c'est grand cas qu'on ne trouve personne de courage assez haut qui, la fortune est malheureuse et bonne, supporte comme il faut, sans se troubler de ses présents volages. Et à la fin, celui prudent, la fortune modère en ses instables tours, qui en malheur un meilleur temps espère, en bonheur craint toujours. Donc là, la rubrique est clairement indiquée, fortune, un des thèmes débattus, puisque dans les censures des essais de Montaigne, c'est un des thèmes, un des mots que les censeurs vont, au moins l'un d'eux, va relever comme étant suspect. Mais ici, accepté par Garnier, avec cette tension qui existe entre la fortune invisible et incompréhensible pour l'être humain et d'autre part la providence, qui, elle, est un dessein organisé de la part de Dieu. On voit donc que dans les éditions de Garnier, de Robert Garnier, il y a ce système de marquage des lieux communs et qui renverrait, je pense, à quelque chose qui, d'une part, peut être contemporain dans le théâtre européen, mais aussi qui va avoir, même si les guillemets vont disparaître, des prolongements tout à fait puissants, aussi bien dans des œuvres comme celle de Corneille, où il y a très souvent ces... sentences ou ces morales qui viennent s'inscrire à l'intérieur de l'intrigue. Le Cid serait un exemple riche de ces morales ou de ce sublime des lieux communs à l'intérieur même des répliques des personnages, ou on le verrait dans le théâtre de Marlowe, dans Édouard II, il y a un procédé de construction de très nombreuses répliques ou tirades qui est celui que l'on pouvait qualifier dans la langue de la rhétorique du XVIe ou XVIIe siècle, du rapport entre la thèse et l'hypothèse, non pas au sens classique des termes, mais la thèse étant le lieu commun dans son énoncé universel le plus sublime, et l'hypothèse étant le cas particulier, la situation spécifique. Et la construction poétique et dramatique peut être de partir d'un énoncé qui est une thèse et de montrer que la situation concrète qui est celle de l'intrigue en est la parfaite illustration, ou bien de partir d'une situation particulière et précise pour arriver à en marquer la morale universelle. C'est là une mode de construction qui, même si typographiquement les guillemets n'apparaissent plus ou les guillemets inversés n'apparaissent plus pour marquer le lieu commun, reste très présente dans la construction. Donc, jusqu'en 1600, on trouve ce procédé de marquage des lieux communs déjà dans des pièces de théâtre, mais soit dans des pièces de théâtre qui sont liées à des lieux de représentation fermés et choisis, les maisons aristocratiques, les universités de Cambridge et Oxford, ou bien des pièces qui sont des pièces pour la lecture, des closet plays. Et donc, du coup, évidemment, comme les poèmes, avant 1600, on a l'utilisation dans des éditions du grand poème de Marlowe, Hero and Leander, ou dans la prose de Sidney pour l'Arcadia. Après 1600, et c'est dans ce contexte que les deux éditions du premier quarto et du deuxième quarto de Hamlet pourraient se situer, on voit cette pratique s'appliquer aussi à des pièces qui ont qui sont représentées sur les théâtres publics à Londres, soit les amphithéâtres publics comme le Globe, soit des salles comme les Blackfriars. Et avant le premier quarto d'Hamlet, on a un certain nombre de pièces, 8 pièces, qui ont déjà été marquées de cette façon-là, la première étant une pièce de Ben Jonson et qui a pour titre la satire comique de l'homme ordinaire et de ses humeurs. The comical satire of every man out of his humor. Et puis des pièces de Marston. Et les pièces de Shakespeare sont dans une série de 29 pièces qui vont être, à partir de 1600, tout appartenant au répertoire des théâtres publics, marquées de cette manière. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas une spécialisation d'un libraire-imprimeur. J'ai montré que Nicolas Sligg pouvait être un homme important, puisque d'un côté, il est l'éditeur du England's Parnassus, il est l'imprimeur du England's Parnassus, et d'autre part, il est l'imprimeur des deux premiers quartos d'Hamlet. Mais ce sont 12 autres imprimeurs qui ont cette pratique-là dans les années qui suivent 1600, et 24 libraires-éditeurs. Il n'y a donc pas de spécialisation, c'est une pratique commune et partagée et qui renvoie au processus même de publication puisque, comme je le disais, on doit supposer qu'avant d'être composé par des ouvriers compositeurs, le typographe, le texte a été préparé, a été marqué, il a été pre-read, il a été pré-lu et quelqu'un, on peut supposer rarement l'auteur, mais un correcteur ou le libraire éditeur a marqué pour ses lecteurs ces lieux communs. Dans beaucoup de cas de pièces, on peut penser que c'est dans ce cercle autour de Bodenham que cette pratique a pu être faite et qui laisse donc supposer la circulation ou l'obtention des manuscrits qui vont servir à la publication. Mais pas forcément, d'ailleurs, comme on le dit le plus souvent, pas forcément des manuscrits d'auteurs. Ils peuvent être déjà des copies ou des transcriptions de la pièce, ces private manuscripts qui servent pour l'édition. Et la preuve de la généralisation de cette pratique, elle se trouverait aussi dans sa récusation ou sa moquerie. Dès 1601, il y a des pièces jouées par les étudiants de Cambridge qui ont pour cible et pour moquerie à la fois le théâtre professionnel et la pratique des lieux communs. Une pièce qui a pour titre The Return from Parnassus, le retour du Parnasse de 1601, cite explicitement le Belvédère et l'England Parnassus une année après leur publication comme étant ces recueils où les ignorants peuvent se livrer à la plus basse des imitations, puisqu'ils trouvent là disponible un ensemble de citations et d'extraits qui peuvent être réemployés, ce qui crée l'ambivalence finalement de cette technique, en particulier lorsqu'elle est appliquée au texte poétique, au texte dramatique. On le voit que c'est une pratique commune, sans doute des dramaturges dans la construction de leurs textes, de s'emparer de fragments d'extraits, de citations déjà là. C'est une pratique commune des éditeurs des textes, entendons-nous, soit les correcteurs qui établissent la copie, soit les libraires-éditeurs qui décident de l'édition et qui généralisent pour leurs lecteurs les indications permettant de repérer les lieux communs. Et on peut supposer que c'est une pratique des lecteurs qui cherchent, y compris dans les poèmes ou dans les pièces, des lieux communs pour s'en souvenir ou pour les noter dans leur cahier de lieux communs. On a donc d'un côté une généralisation à tous les moments du processus de transmission textuelle de la pratique des lieux communs. Et en même temps, elle peut être la cible d'une ironie, la cible d'une moquerie, lorsqu'elle n'est pas utilisée avec l'art qui est celui des lettrés ou des inspirés, et que donc elle peut être renvoyée, alors qu'elle est universelle, du côté d'une disqualification, sinon sociale, mais pour le moins culturelle, ce qui dans les langues du sud de l'Europe pourrait être la distinction entre ceux qui sont dotés d'une capacité de jugement et qui donc peuvent faire bon usage de cette technique et qu'on qualifie de discreto, et d'autre part le vulgo, c'est-à-dire ceux qui peuvent être socialement ou culturellement dépourvus de cette capacité d'intelligibilité, de jugement et de goût. Même si en anglais on trouvera d'ailleurs les mêmes oppositions entre parfois dans les prologues ou les préliminaires, l'opposition entre the judicious reader, le lecteur doté de jugement et qui serait l'équivalent du discreto, et d'autre part ce lecteur vulgaire qui est dépourvu de la capacité de juger. Donc on a ici cette manière de marquer la tension entre l'usage judicieux ou discret de cette technique et d'autre part sa forme abâtardie et vulgaire par ceux qui ignorent et qui sont dépourvus de cette faculté de jugement. On peut dire qu'à partir des années, enfin disons du premier tiers du XVIIe siècle, cette pratique de l'indication des lieux communs dans les éditions va s'effacer, mais ne va jamais disparaître complètement. En 1655, John Cotgrave va publier The English Treasury of Wit and Language, le trésor anglais de l'esprit et du langage, et le sous-titre est Méthodiquement digéré, digested, dans des lieux communs destiné à un usage général. Donc on est au milieu du siècle, avant la réouverture des théâtres, avant la Restauration, et cette anthologie n'utilise que des pièces de théâtre et sans attribution à leurs auteurs. Mais on le voit clairement avec ce sous-titre, il reprend cette métaphore, la deuxième métaphore à côté de celle qu'on a rencontrée la fois dernière, c'est-à-dire de l'abeille. Ici, c'est la métaphore de la digestion, digerere dans les termes latins, digesta, c'est-à-dire le fait que ce qui est absorbé par la lecture est digéré par l'intellect de façon à pouvoir être un aliment pour les nouvelles créations. Et donc, une digestion méthodique, ça veut dire organisé par thème, topic et rubrique, ce sont là les lieux communs, et pour un usage général. Et dans ce cas-là de John Cotgrave, il y a un exemplaire de cette English Treasury of Wit and Language qui a été annoté par son lecteur, et ce lecteur a réattribué de manière manuscrite, lorsqu'il le pouvait, les citations à leurs auteurs. Et c'est pour ça qu'on y trouve, par exemple, des réattributions de ces citations anonymes à Shakespeare par ce lecteur, lui aussi anonyme, d'un des exemplaires du livre de Cotgrave en 1655. Et une remarque intéressante est que d'un côté, évidemment, il y a l'affirmation ici de la fonction auteur, le nom propre, William Shakespeare, et d'autre part, on peut penser que ce lecteur s'appuie pour des réattributions des vers sur les folios dont il peut disposer. En 1655, il y a deux folios qui ont été déjà publiés, le premier en 1623, et puis le second qui reprend exactement le même corpus en 1632. Donc il peut s'appuyer sur un works de Shakespeare, même si le mot n'apparaît pas au titre. Et d'autre part, restent présents ces attributions qui ne sont pas légitimées par le folio, puisqu'elles sont de pièces qui n'entrent pas dans le folio, mais que lui, lecteur, repère et attribue, par exemple, la pièce qui s'appelle La veuve puritaine, The Puritan Widow, attribuée sur sa page de titre du quarto à Shakespeare, demeure pour ce lecteur du milieu du XVIIe siècle shakespearienne. Et il attribue certains vers, il les réattribue à The Puritan Widow et The Puritan Widow de William Shakespeare. Ceci pour dire qu'on est face à des phénomènes très contradictoires et très complexes, puisque ici on a une construction d'une fonction auteur qui va de pair avec une mobilité ou une indécision ou une malléabilité du canon. Et l'attribution de la fonction auteur n'implique pas nécessairement l'identification figée, stricte, autorisée de texte à un nom propre. Et cette annotation de ce lecteur du English Treasury of Wit and Language en est un bon exemple. Alors, un moment sinon de fin, mais de ce parcours sur indiquer typographiquement des passages dans un texte, on pourrait le trouver avec la même ambivalence dans l'édition de Pope de Shakespeare de 1725 et une seconde édition ou émission en 1728. Parce que Pope explique qu'il va utiliser demander à son imprimeur d'utiliser deux signes typographiques pour indiquer d'un côté ce qu'il appelle quelques-uns des plus brillants, éclatants, shining passages sont marqués par des virgules inversées dans la marge. Et quand la beauté ne réside pas seulement dans des traits particuliers, mais dans la totalité d'une scène, celle-ci est marquée en son commencement par une étoile. Donc l'édition de Shakespeare, de Pope, de 1725 au prix 1728, est une édition tout à fait passionnante, puisque d'un côté, elle va dégrader un certain nombre de vers qui sont considérés comme indignes du génie shakespearien et attribués à une corruption par les acteurs lors des représentations, et que typographiquement Pope demande d'avoir publié, imprimé en bas de la page, donc ils sont extraits du texte, mais là ils sont extraits tout à l'inverse du lieu commun, c'est pas pour le sublime du lieu commun, c'est pour la vulgarité ou l'obscénité du texte. Et d'autre part, il y a ce marquage de passages qui sont shining, qui sont si extraits pour leur beauté. Et on voit qu'il y a comme un déplacement de ce qui peut faire le sublime. Le sublime, là, n'est pas dans le lieu commun, mais il est dans l'écriture poétique. Donc, on a ce déplacement, mais ce déplacement renvoyant en quelque sorte à une contradiction qui est celle que j'évoquais pour commencer, puisque ces passages ainsi marqués, qui pourront ensuite, dans beaucoup de recueils, les mêmes ou d'autres, composer ce que l'on aura comme, particulièrement au XVIIIe siècle, « The Beauties of Shakespeare », ces recueils qui extraient jusqu'à aujourd'hui les plus beaux vers, ou supposés tels, vont à l'encontre de ce qui était un des traits par lesquels Pope caractérisait l'écriture de Shakespeare, c'est-à-dire sa capacité à l'individualisation des personnages par leur manière de dire. Comme si de nouveau, mais pour une autre raison que celle de la morale universelle, l'extrait ou la citation pouvait être détaché du caractère, isolé du moment dramatique pour devenir un répertoire de modèles d'excellence d'écriture. Et donc, du coup, on retrouve bien là une double ambiguïté. D'un côté, il s'agirait de lieux communs stylistiques et non pas de lieux communs pour leurs valeurs philosophiques ou morales ou religieuses. Donc c'est un déplacement qui fait apparaître l'édition de Pope dans un rapport avec le texte qui va être le rapport d'une critique esthétique contre laquelle d'autres éditeurs, et en particulier celui qui attaque le plus violemment l'édition de Shakespeare, Lewis Theobald, va opposer les droits d'une critique philologique et historique. On a donc là une importance de cette édition de Pope de 1725-1728 pour faire entrer dans un univers d'un rapport au texte gouverné par des critères esthétiques, ce qui peut expliquer à la fois la volonté d'en extraire les plus beaux passages et d'autre part la décision d'en retrancher ce qui paraîtrait indigne de cette écriture. Et d'autre part, on a cette contradiction permanente qui est celle de toute forme de circulation sous forme d'extrait et de citation qui, même lorsqu'elle n'annule plus, et surtout peut-être, lorsqu'elle n'annule plus l'attribution au nom propre de l'auteur, opère une radicale décontextualisation, opère un radical écart entre l'énoncé et l'énonciation, et donc, transmute profondément la signification dans l'énonciation de ces énoncés qui deviennent disponibles pour toute réutilisation. Alors, je vais terminer là pour cette partie de ce premier exemple que je voulais analyser sur la dialectique, la tension entre relier Shakespeare et disséminer Shakespeare, qui est un thème tout à fait fondamental, vous l'avez compris, non seulement pour le rapport des lecteurs ou des spectateurs avec les textes, mais qui est aussi un thème fondamental pour les modalités complexes, parfois souvent contradictoires, de la construction de la figure d'auteur et d'autre part pour la définition même du genre littéraire. Le second exemple, je prendrai dans la deuxième partie, une fois que nous avons fait cette petite pause de 5 minutes, c'est un exemple parallèle mais un peu différent, puisque là, il s'agirait de comprendre non pas comment des textes épars se construisent en œuvre, et cette œuvre ainsi construite pouvant être, ou les textes épars eux-mêmes préalablement pouvant être une ressource pour une circulation sous forme de fragments, mais c'est une problématique que je prendrai avec le Quichotte, c'est-à-dire comment se construit une œuvre dans son unité à partir de sa publication en deux moments et en deux livres séparés, la première partie qui n'en était pas une, en 1605, et la seconde partie en 1615. Et de même, peut-être je n'aurai pas le temps de traiter aujourd'hui, mais pour la dernière séance, montrer comment, à son tour, Le Quichotte, s'il n'est pas l'objet, comme les pièces ou les poèmes shakespeariens, de citations dans des recueils de lieux communs, peut être l'objet aussi d'un traitement qui, dans ce cas-là, est celui de l'abrégement de l'œuvre, ce qui nous ferait rencontrer un grand thème du XVIIIe siècle, c'est-à-dire la circulation des œuvres qui acquièrent une monumentalité par leur longueur sous la forme d'abrégés qui en permettent une circulation plus large, mais qui pose la question de savoir quelle œuvre, c'est-à-dire dans quel état de texte a été lu une œuvre particulière. Donc on peut reprendre à 11h06, puisque, juste prendre pour ce deuxième exemple qui nous amènera aux mêmes questions, mais en fait avec évidemment une œuvre qui a une structure différente en son commencement. Et nous pouvons reprendre donc avec changeant d'univers, mais pas de questions, puisqu'ici, la même problématique doit être abordée avec une réalité textuelle différente, c'est-à-dire celle d'une œuvre, entre guillemets, d'une histoire qui se constitue dans son unité alors qu'elle a été, en son origine, publiée en deux moments, en deux livres, en deux temps. Les deux parties du Quichotte, publiées la première en 1605 et la deuxième en 1615. Alors ici, les problèmes qui sont posés, c'est d'abord un premier problème qui est comment ont été associées, réunies ces deux parties, ces deux livres, pour former une seule œuvre. La deuxième question, c'est celle donc de la circulation en forme abrégée au-delà du livre lui-même, de fragments détachés de l'œuvre. Et cette dimension-là, dans le cas du Quichotte, et comme souvent, a une dimension de mise en abîme, puisqu'on peut aussi penser que Don Quichotte, lui-même, l'œuvre Don Quichotte, en particulier la première partie, qui n'en était pas une en 1605, puisqu'il est peu probable que Cervantes pensait écrire une continuité, une suite à ce moment-là, est elle-même construite comme une addition de fragments textuels. Cela est vrai pour l'histoire elle-même, puisque, pour le moins, il existe le fragment qui va du premier chapitre au huitième chapitre du Quichotte de 1605, et qui s'interrompt, puisque l'auteur de cette première partie, des huit premiers chapitres, déclare n'avoir plus les sources pour continuer l'histoire, et elle reprend cette histoire après un épisode de recherche d'une possibilité de continuer les récits des aventures de l'Hidalgo devenu chevalier errant à partir du chapitre 8, lorsque est découvert à Tolède, ce manuscrit de l'historien arabe Sidi Amete Ben Enkheli. Donc, dans la fiction de l'écriture du Quichotte, on a déjà cette addition de deux textes qui font un livre. Et avec ce passage intermédiaire où il y a comme une suspension de l'histoire et le récit de la recherche, de la continuation possible du texte. Mais au-delà même de cette construction même du livre de 1605, où Cervantes joue avec le thème du manuscrit trouvé par hasard, du texte interrompu, effacé, disparu, qui était une manière aussi de jouer avec certaines thématiques qui sont présentes dans les romans de chevalerie eux-mêmes. Il y a dans l'histoire de 1605, je dis histoire puisque la description, la désignation par Cervantes du texte est toujours celle de Historia, il y a des fragments de textes inscrits dans cette histoire, soit parce qu'ils sont en relation avec Don Quichotte et Sancho qui en sont les témoins ou les auditeurs. C'est le cas des chapitres 13-14 avec l'histoire de la bergère Marcella. C'est le cas des chapitres 39-41 avec l'histoire du captif évadé des bagnes d'Alger. Soit parce que ce sont des fragments totalement détachés de l'histoire même de Don Quichotte, de Sancho et des autres personnages, comme la novella du curieux impertinent dans les chapitres 33 à 35, et qui, là, est une nouvelle lue à haute voix par le curé aux autres personnages du roman, sauf Don Quichotte qui est allé se reposer. Et donc, il s'agit d'une lecture à haute voix d'une histoire qui n'a rien à voir avec le temps et le lieu de l'histoire du Quichotte. Donc, il y a comme une inscription dans l'écriture de Cervantes, dans la fiction du manuscrit ou des manuscrits du Quichotte, comme dans cette inscription à l'intérieur de la Historia d'une série d'autres histoires, donc certaines comme Le Curieux Impertinent pouvant être désignées comme novella, il y a finalement, comme dans l'écriture, quelque chose de l'appropriation de la forme matérielle des miscellanées, c'est-à-dire des livres composés de fragments, matériellement. Et dans le cas du Quichotte, c'est métaphoriquement, poétiquement, que ces fragments sont réunis dans le livre, non seulement comme objet matériel, mais comme écriture et œuvre voulue par Cervantes. Et c'est d'ailleurs un des points qui sera reproché au texte de 1605 par ses critiques. Et comme vous vous en souvenez, dans la deuxième partie, en 1615, les premiers chapitres, les chapitres 3 et 4, sont une discussion sur l'appropriation, la circulation, les lectures, les interprétations de la première, entre guillemets, partie de 1605. Puisque le bachelier Sanson Carrasco, qui revient de Salamanque, rapporte à Don Quichotte et à Sancho des nouvelles à propos du livre qui raconte, de 1605, qui raconte leurs propres aventures. Et à un moment donné, Sanson Carrasco déclare « L'un des défauts que l'on reproche à cette histoire, c'est que son auteur y a inséré une nouvelle intitulée « Le curieux impertinent ». Non pas qu'elle soit mauvaise ou mal écrite, mais parce qu'elle n'est pas à sa place et n'a rien à voir avec l'histoire du seigneur Don Quichotte. Il y a donc une sorte de mise en abîme de Cervantes par rapport à sa propre pratique d'écriture, attribuant à Sanson Carrasco ce propos quant à la critique qui pouvait être adressée contre la forme miscellanée, qui était une forme bibliographique ou codicologique, mais ici transférée à l'écriture elle-même d'une histoire qui aurait dû avoir son unité. Voilà donc les problèmes posés par la question de dissémination du Quichotte ou rassemblement du Quichotte ont une spécificité, puisque là, on n'est pas devant une série de poèmes ou une multiplicité de pièces, mais devant une œuvre qui, à partir d'un certain moment, ça a été construite en deux parties, avec la publication en 1615 de la Segunda Parte del Ingenioso Caballero Don Quixote de la Mancha. L'existence de ces deux parties, 1605-1615, a posé d'emblée, après 1615, le problème de leur articulation. Et c'est un thème sur lequel, évidemment, Francisco Rico a réfléchi avec profondeur, sur comment transformer ces deux parties en une seule œuvre, sinon matériellement, en un seul livre. Alors, il y a déjà, le problème se pose à plusieurs niveaux que je voudrais essayer de voir peut-être méticuleusement. Premier problème, c'est le problème du titre. puisqu'il s'agit donc rétrospectivement de transformer le texte publié en 1605 et qui avait pour titre El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Hidalgo étant donc le mot du titre, petit noble, en une première partie, ce qu'elle n'était pas par définition, puisque en 1605, il n'y a pas d'horizon d'écriture d'une seconde partie. Et on voit dans cette première difficulté, qui est très simple finalement, beaucoup d'hésitation. Le premier éditeur qui édite les deux parties de Don Quichotte dans une même édition, non pas dans un même livre, mais dans une même édition, est un libraire-éditeur de Valence qui s'appelle Roque Sonzonio, en 1616, son imprimeur étant May, l'imprimeur d'édition du Quichotte, première partie, qui n'en était pas une, en 1605 et 1611. Et ici, il ne fait rien, c'est-à-dire qu'il ne change pas le titre du premier volume, qui reste « El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha », comme si, finalement, la simple juxtaposition d'une réédition à l'identique du livre de 1605 et puis, d'autre part, ce qui est présenté comme la seconda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha était suffisante en elle-même. Mais les libraires-éditeurs se rendent bien compte qu'il y a quelque chose là qui n'est pas suffisant, qu'il faut faire retour sur le livre de 1605 pour le transformer en la première partie d'un diptyque qui a été constitué à partir de 1615. C'est ainsi qu'à Bruxelles, Uberto Alonso Antonio, en 1616-1617, lui introduit primera parte sur la page de titre. Dans son édition de 1616, qui est le second tome, la seconde partie, en 1617, il réédite ce qu'il appelle maintenant la première partie. Et l'on voit aussi en 1617, à Barcelone, trois libraires-éditeurs qui vont partager une édition des deux parties du Quichotte. Ils ne touchent pas le titre de la première partie, qui donc n'est pas donné comme tel, mais le titre courant, c'est-à-dire au sommet de chacune des pages, devient « Primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha ». La première grande rupture, c'est lorsqu'on voit apparaître sur la page de titre du premier volume, puisque toutes ces éditions vont rester toujours divisées en deux volumes, in quarto, l'apparition d'un titre complet qui dit « Première et seconde partie de Don Quichotte ». C'est-à-dire sur le premier volume, le fait que l'on annonce les deux parties. Primera y segunda parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. C'est une initiative qui apparaît à Madrid pour une édition de 1636-1637 dont le libraire-éditeur est Domingo González et l'imprimeur Francisco Martínez. Et c'est une formule qui va perdurer avec l'édition de 1647 puis l'édition de 1655 à Madrid. On a donc une unité qui se crée. Primera y segunda parte, sur la première page de titre du premier des deux volumes. Et là, dans l'histoire du titre du Quichotte, l'innovation et la rupture la plus décisive, comme très souvent dans l'histoire de ce livre qui est européen d'emblée, ne vient pas d'édition espagnole en Espagne, mais vient dans ce cas-là d'une édition en espagnol, mais à Bruxelles, celle de Juan Montmartre, en 1662, qui décide le changement du titre. Et c'est ce titre-là qui va demeurer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il rassemble la première et la deuxième partie, il efface l'idée de partie, et le titre devient « Vida y hechos », la vie et les faits, les hauts faits, « del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha ». Donc on voit là un détail. à partir de 1662, et c'est imité ensuite par les éditions madrilènes à partir de 1674 jusqu'à la 1780. On voit qu'à une désignation du titre qui renvoyait finalement à la matérialité du livre, première partie, deuxième partie, et substituer un titre qui vaut pour la totalité et qui porte l'attention sur le héros et sa biographie ou ses aventures, et non plus sur la matérialité textuelle de l'ouvrage. Vida y Hechos, c'est un modèle de titre pour des biographies, des vies de saints, des vies de grands personnages, des récits héroïques. Et donc l'initiative là du correcteur ou du libraire Juan Montmartre fait basculer le titre dans un registre qui est celui des récits de vie et libère en quelque sorte le titre de cette question de la première et de la seconde partie du livre. Et d'autre part, vous l'avez entendu, ce sont la vie et les faits, les actions del ingenioso Caballero, parce qu'il y avait une difficulté supplémentaire. Le titre de 1605 était El ingenioso Hidalgo et le titre de 1615 était El ingenioso Caballero. Et il y avait là une difficulté aussi d'ajustement qui n'avait jamais été résolue puisque les éditions préalables avaient gardé cette distinction. Montmartre décide donc de donner pour la totalité du livre, en ces deux tomes, de prendre la désignation de chevalier, ce qui était renvoyé finalement à cette structure de l'histoire dans laquelle un hidalgo, qui s'appelle Alonso Quijano, dans le premier chapitre, décide de se nommer lui-même Don Quixote de la Mancha, ce qui est une première forme d'entrée dans la chevalerie, et au troisième chapitre, dans l'auberge, de se faire adouber, de se faire armer chevalier, vous vous souvenez, dans cette scène avec les deux prostituées et puis l'aubergiste. Donc à partir du premier chapitre, renforcé par le troisième chapitre, on a un hidalgo qui est devenu caballero. Et ceci peut mener jusqu'au dernier chapitre de la seconde partie, lorsque, au moment de sa mort, Don Quichotte revient, abandonne, refuse le nom de Don Quixote de la Mancha pour récupérer son véritable nom, c'est-à-dire ce nom d'Hidalgo, qui était Alonso Quijano di El Bueno, le bon, par sa réputation. Le titre, à partir du moment où il le met comme titre unificateur, Caballero, renvoie à cette structure dans laquelle on aurait le récit de vie d'un Hidalgo, mais qui, à partir du premier chapitre, du premier livre jusqu'au dernier chapitre du deuxième livre, a été par lui-même désigné, s'est désigné lui-même comme chevalier et chevalier errant. Comme s'il y avait en quelque sorte un espace ici de la fable à l'intérieur de la fiction. La fiction, c'est celle du récit de la vie de Alonso Quijano, et la fable, c'est cette immense narration qui est celle de Alonso Quijano, transformé par lui-même en Don Quixote de la Mancha. Il y avait donc une première difficulté, et ça me semble, indépendamment de l'intérêt pour le Quichotte, toujours une attention qui doit être portée aux titres et aux pages de titres, plus qu'on ne l'a fait quelquefois. La deuxième difficulté, c'était la question de la division matérielle et textuelle de l'œuvre. Dans la mesure où le livre de 1605 était divisé en quatre parties. Et donc, du coup, le problème était posé, puisque si on avait deux parties, qu'est-ce qu'il fallait faire avec les quatre parties de 1605 ? On avait donc là un problème textuel qui avait été créé par l'apparition d'une seconde parte en 1605. Et là encore, l'innovation décisive se lie avec cette édition de Bruxelles de 1662 de Juan Montmartre qui décide de transformer les quatre partes de la première partie en quatre libros, quatre livres, et de même manière divise lui-même en quatre livres la deuxième partie. On a donc bien deux parties divisées chacune en quatre livres et qui sont subsumées par le titre général de Vida y Hechos de El Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha. Ceci est intéressant, je crois, par le fait qu'on voit comment, c'était un des thèmes que j'avais évoqué peut-être dans la deuxième cour, comment le vocabulaire peut osciller entre des désignations matérielles et des désignations textuelles, puisqu'ici il s'agit de prendre libro et livre comme une unité qui est une division du texte, et en quelque sorte en déplaçant sur ce registre de la division textuelle ce qui pouvait être une réalité matérielle. On a pu l'évoquer, cette question, pour le moment clé qui est le passage du rouleau de l'Antiquité au codex des premiers siècles de l'ère chrétienne, lorsque, comme l'a on l'a montré pour la cité de Dieu de saint Augustin, la division en livres, liber libri, du texte lui-même peut avoir comme matrice les contenus de texte qui étaient contenus à l'intérieur d'un rouleau. C'est-à-dire que la longueur textuelle du livre renvoie à la longueur matérielle du rouleau, comme s'il y avait une mémoire textuelle d'une ancienne division matérielle des textes, ce qui renvoie à cette idée très forte Guglielmo Cavallo sur une des plus grandes mutations que représente l'apparition du livre Codex. C'est-à-dire que si dans le monde du rouleau, une seule œuvre suppose une multiplicité de rouleaux, c'est-à-dire un seul livre comme œuvre suppose une multiplicité de livres comme objet, à l'inverse, dans le monde du Codex, un seul livre comme objet peut recevoir plusieurs livres comme œuvre, voire même, comme on le voit avec cette division du texte, plusieurs livres comme œuvre divisés eux-mêmes en livres comme unité textuelle. Donc on a à la fois la question du rapport entre l'essence matérielle et l'essence textuelle des mêmes mots, et d'autre part, on a, dans le cas précis du Quichotte, la nécessité d'une renomination, d'une nouvelle définition, d'une nouvelle désignation des anciennes quatre parties de 1605, lorsque le Quichotte en son entier va en contenir deux. L'autre dimension de cette question de matériel et textuel, c'était la question alors proprement éditoriale. Comment publier les deux parties de Don Quichotte, soit sous le titre Primera y Segunda Parte, soit sous le titre de créé à partir de 1662, Vida y Hechos de Don Quijote. Et depuis 1616-1617, reprenant les formats qui étaient ceux des premières éditions de Don Quichotte en 1605, la pratique est deux volumes in quarto. Et là, l'innovation est plus tardive, elle est du milieu du XVIIIe siècle, lorsqu'à Barcelone, un éditeur qui s'appelle Juan Rolis décide de publier Le Quichotte dans un format plus petit, in octavo, et en quatre volumes. Et cette initiative va être ensuite imitée à Madrid par les nombreuses éditions de Manuel Martín. C'est-à-dire qu'on entre ici dans un univers qui est pratiquement celui du livre de poche, du livre portable, ce qui est à la fois un nouveau marché pour le livre à partir du XVIIIe siècle en Espagne, où le format quarto était resté très largement dominant, à la fois pour les narrations en prose et, comme on le sait, pour les éditions de théâtre. Et ce format quarto, y compris d'ailleurs pour les éditions populaires du répertoire du Cordel, le format in octavo des Quichotte à partir de 1755 se lie à cette capacité d'un livre qui peut être porté sur soi, lu de manière discontinue par le fait d'être présence de tel ou tel des tomes de la totalité de l'œuvre, ce qu'on appelle en espagnol le marché de la faltriquera, le marché de la pour la poche. Et vont se multiplier ces Quichotte en quatre volumes, format in quarto, au XVIIIe siècle. Je trouve que c'est un cas intéressant parce que l'on voit qu'on a là une sorte de fragmentation matérielle, passée de deux tomes à quatre tomes, au moment même où textuellement s'est renforcé, s'est constitué, s'est établi l'unité de l'œuvre. Et c'est cette sorte de variation entre une unité conceptuelle de l'œuvre d'un côté et d'un autre côté sa dissémination, ou sa circulation, sa fragmentation à l'intérieur d'une pluralité de volumes dans leur définition matérielle, qui pourrait être aussi un objet d'intérêt. Donc, lorsqu'on a les deux Quichotte, 1605-1615, on a un premier problème, problème du titre, on a un deuxième problème, problème de la division du texte et problème de la structure matérielle de la publication. Et il y a un troisième problème qui avait pu attirer l'attention de Francisco Rico, c'est le problème des ajustements textuels. Ici, là, il y a plusieurs questions, mais la question la plus importante est un épisode fameux et un épisode fâcheux pour Cervantes, qui était celui lié à l'âne de Sancho. Dans l'édition de 1605, qui a été imprimée pour une grande partie à fin de 1604, il y avait pour cette histoire peu de données, simplement le fait qu'au chapitre 25, l'âne de Sancho disparaissait et réapparaissait sans plus de raison au chapitre 46. Et cette anomalie textuelle avait déchaîné immédiatement l'ironie, la critique de ceux qui, pour des raisons plus profondes, considéraient Cervantes comme un outsider par rapport au champ des lettres humaines et au champ de la production littéraire consacrée. Et donc, en 1605, pour la seconde édition à Madrid, le libraire Juan Francisco de Robles, l'imprimeur Juan de la Cuesta, Cervantes a écrit deux épisodes, qui sont les deux seules variantes importantes du Quichotte, où il raconte d'un côté le vol de l'âne de Sancho par le galérien qui a été imprudemment libéré par Don Quichotte, Rines de Pasamonte, et un épisode où l'âne est récupéré par Sancho qui découvre son voleur et reconnaît son animal chéri. Et donc il y a ces deux fragments textuels qui, pour des raisons extrêmement convaincantes, stylistiques et lexicales, peuvent être raisonnablement attribués à à Cervantes. Et donc, Cervantes a remis à Juan de la Cuesta, l'imprimeur, ces deux ajouts textuels pour les insérer là, dans le texte, de façon à rendre compréhensible cette disparition puis réapparition de l'âne. Et effectivement, le premier récit a été introduit dans le chapitre 23, le vol de l'âne de Sancho par Ginés de Pasamonte, et le second a été introduit dans le chapitre 30. Et très malheureusement, plusieurs phrases des chapitres 23, et en particulier la première du chapitre 25, n'ont pas été corrigées comme il aurait fallu, et Sancho s'y trouvait juché sur son âne, qui normalement lui avait été volé quelques lignes auparavant et qui n'avait pas encore récupéré. Donc de redoublement de l'ironie et de la critique contre la négligence de Cervantes. Était-ce parce que dans l'atelier typographique, les additions n'avaient pas été mises là où Cervantes aurait voulu qu'elles le soient, c'est-à-dire finalement une récupération plus précoce de l'âne? Était-ce par négligence, c'est-à-dire qu'aucun correcteur n'a vérifié le texte pour le rendre absolument cohérent avec cette nouvelle version qui était proposée par l'introduction de ces deux variantes? Et curieux, on voit que le seul correcteur qui fait ce travail de cohérence n'a rien à voir avec les éditions qui sont normalement au plus près de l'auteur, c'est-à-dire celles de 1605 rééditées en 1608, mais est le correcteur de l'édition de Bruxelles, de Roger Velpius, le libraire de l'imprimeur Velpius à Bruxelles, en 1607, qui lui lit attentivement le texte et va effacer ses mentions de l'âne avant sa récupération. Ce qui a montré que le rapport des auteurs avec les textes, même lorsque, comme dans le cas de Cervantes, ils sont prêts de l'atelier typographique, ils introduisent des variantes qu'on peut supposer autographes, pour autant, ne se substitue pas cette présence ou cette proximité au travail de l'atelier et que la correction des textes peut échapper à la vigilance ou être l'objet de la négligence des correcteurs ou des imprimeurs. Donc en 1608, Cervantes reprend pour la seconde fois le problème de l'âne. Et il s'efforce de corriger les incohérences du chapitre 23, c'est-à-dire ce chapitre où Sancho apparaît sur l'âne alors qu'il ne l'a pas encore récupéré, et il s'efforce de les corriger en modifiant le texte de façon à ce que ce qui apparaisse, c'est non pas que Sancho était juché sur son âne, qui a disparu, mais qu'il allait à pied, chargé du bât et de la selle de l'âne, en imaginant que le vol avait été fait, comme on le rencontre dans un épisode de l'Orlando Furioso, c'est-à-dire Sancho endormi, et Pasamonte a retiré l'âne de dessous Sancho, mais qui restait juché sur sa selle et avec le bas de l'âne. Ce qui fait que, dans la version de 1608, Sancho porte sur ses épaules, il est l'âne de lui-même en quelque sorte, il porte sur ses épaules la selle et le bas, alors que son âne a disparu. Donc on voit la complexité pour Cervantes d'essayer de résoudre cette question qui est un détail infime dans l'océan du Quichotte, mais qui a été mis en moquerie très tôt. Il y a une pièce de Lope de Vega qui détestait Cervantes, qui se moque de ces ânes qui apparaissent et disparaissent dans des récits où les lecteurs sont bien négligés. Alors le problème était, en 1605, que faire avec cela pour le retour sur le livre, en 1615, pardon, que faire avec cette question de l'âne? Et ce qui était, c'est le génie aussi de Cervantes, ce qui avait été sans doute négligence, négligence de lui-même dans la première édition, négligence des correcteurs, imprimeurs et compositeurs dans l'atelier de Juan de la Cuesta dans la seconde édition, et qui avait été une sorte de subtil ajustement dans la troisième édition madrilène de 1608, devient un des thèmes de la discussion entre Sanson Carrasco, Don Quichotte et Sancho. Et dans ce moment-là, Sancho va finalement expliquer ce qui est arrivé et confirmer en quelque sorte, dans cet ajustement textuel, le texte de la seconde partie avec le texte qui serait celui de la première, mais dans l'édition de 1608. Alors je lis ce passage. Sancho retourna chez Don Quichotte et reprit la conversation interrompue en disant « À la question de M. Sanson Carrasco, et de ceux qui souhaitaient savoir qui, comment et quand on m'avait volé mon âne, je déclare et réponds ceci, que la nuit même où, fuyant la Santa Hermandad, nous nous étions réfugiés dans la Sierra Morena, qui est le début du chapitre 23, après la malheureuse aventure des galériens, la libération de Ginés de Pasamonte, et celle du mort que l'on en a enterré à Ségovie, nous nous enfonçâmes, mon maître et moi, dans un épais bosquet. Et là, mon maître appuyé sur sa lance, et moi-même, sur mon âne, moulu et rompu par les dernières frottées, nous nous sommes endormis, comme nous l'aurions fait sur quatre matelas de plumes. Et surtout moi qui dormis d'un sommeil si profond qu'un inconnu trouva le moyen de s'approcher et de me suspendre sur quatre pieux qu'il plaça aux quatre coins du bas, de sorte que je demeurais installé à califourchon et qu'il pût tirer le grison, l'âne, par en dessous sans que je ne m'aperçoive de rien. » Alors, Sanson Carrasco, qui connaît son Orlando Furioso, voilà qui est facile à faire et n'est pas nouveau. Il en arriva de même à Sacripante, quand il se trouvait au siège d'Albraque et que le fameux voleur appelé Brunello, usant du même stratagème, lui déroba le cheval qu'il avait entre les jambes. Le jour vint, poursuivit Sancho, et au premier mouvement que je fis, les piquets se dérobèrent et je tombai par terre de tout mon haut. Je cherchais mon âne et ne le vis nulle part, tant et si bien que les larmes m'en vinrent aux yeux et que je me lançais dans une lamentation telle que, si l'auteur de notre histoire ne l'a pas mise, il peut compter qu'il n'a rien écrit de bon. Et ça, c'est une moquerie de Cervantes par rapport à lui-même, c'est-à-dire d'avoir omis cet épisode dans la première édition de 1605. Au bout de je ne sais combien de jours, alors que nous faisions route en compagnie de Madame la princesse Micomicona, je reconnus mon âne et vis que celui qui le montait, en habit de gitan, n'était autre que le fameux Ginés de Pasamonte, cet aigrefin et grandissime fripon que mon maître et moi avions délivré de la chaîne des galériens. Mais l'erreur n'est pas là, fit remarquer Sanson, mais dans le fait qu'avant même d'avoir retrouvé son âne, l'auteur nous dit que Sancho se déplaçait à cheval sur le grison en question. Sur ce point, répliqua Sancho, je ne sais que répondre, hormis que l'historien se soit trompé ou bien qu'il s'agisse d'une négligence de l'imprimeur. On voit donc la difficulté de la résolution du problème, puisque ici Cervantes fait allusion aux trois états de son texte. Premier état, l'auteur qui a omis la lamentation de Sancho, qui aurait été un moment magnifique du texte. L'état de 1605, qui laisse deuxième édition, qui laisse supposer que Sancho est juché sur un âne qui pourtant lui a été dérobé, et l'état de 1608, qui est la longue explication et la référence à la scène de l'Orlando Furioso, et qui expliquerait pourquoi il a gardé certains des éléments de la monture, alors qu'il a perdu son âne. On voit que finalement, la résolution ici, elle est par la sédimentation des trois étapes préalables du texte qui sont évoquées dans ce dialogue entre Sancho et Sanson Carrasco. Alors, le dernier trait qui est peut-être à signaler dans ce cas, c'est le fait que dans le début de la seconde partie, Cervantes va mettre en abîme dans le texte lui-même la structure en deux parties du livre. Et c'est dans le même dialogue du chapitre 4, ou trilogue, puisqu'il y a Sanson Carrasco, Sancho et Don Quichotte qui commentent comment, à la fois le texte, le livre et les lectures de 1605, de la première partie. À un moment donné, la structure en deux parties, qui est la présente, puisque le lecteur lit la seconde partie de Don Quichotte, est transformée en une possibilité ou une hypothèse de continuation. C'est un de ces jeux les plus fascinants du Quichotte, c'est-à-dire de donner comme possible advenir hypothétique ce qui, pour le lecteur, est une réalité avérée, puisqu'il est en train de la lire dans le texte lui-même. Alors, voilà comment est introduit le thème qui m'a retenu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la question de la relation de la deuxième à la première partie. Et l'auteur, alors l'auteur, il s'agit de Sidi Amete Benengeli dans ce cas-là, celui l'auteur de la première partie, au moins à partir du chapitre 8. Et l'auteur demande à Don Quichotte, promet-il par hasard une seconde partie ? C'est ce qu'il promet en effet, répondit Sanson, mais il dit ne pas l'avoir trouvée, ni savoir qui la possède, si bien qu'on se demande si elle sera publiée ou non. Ici, c'est une reprise du dernier chapitre de ce qui est devenu maintenant la première partie, lorsque l'histoire s'interrompt, puisque l'auteur, Sidi Amete Benengeli, déclare qu'il n'a pas trouvé d'écrit authentique qui lui permettrait de narrer la tercera salida, la troisième sortie de Don Quichotte. Et dit-il, seule la réputation, les bruits, la tradition orale racontent que Don Quichotte est allé au tournoi de Saragosse. Mais en l'absence d'écrits authentiques, il n'y a pas de possibilité de continuer. Et c'est comme cela que se clôt cette première partie qui n'en est pas une, mais qui est le livre de 1605. Là, on fait retour sur cette idée. La seconde partie est promise, mais elle est impossible à l'heure actuelle, puisque Sidi Amete Benengeli n'a pas trouvé, dit-il, ne l'a pas trouvé, ce qui est très ambigu, puisqu'on voit que Sidi Amete Benengeli est à la fois l'auteur, mais que, comme il se fonde dans la fiction, sur des documents authentiques, ces documents qui manquent et qui donc ne lui permettent pas à lui, auteur, de transformer sans doute ces documents en la chronique des hauts faits de Don Quichotte. Alors, pour cette raison, autant que parce qu'il y en a qui disent « seconde partie, jamais ne sont bonnes », ou des histoires de Don Quichotte, c'est assez écrit comme ça, on pense qu'il n'y aura pas de seconde partie. C'est ce que dit Sanson Carrasco, rapportant ce qu'il aurait entendu dire, avec ce qui deviendra quasi proverbal, comme « Nunca segundas partes fueron buenas » ou bien « De las cosas de Don Quijote bastan las escritas ». D'autres, cependant, d'humeur plus joviale que saturnienne, disent encore des quichotades, que Don Quichotte joue de la lance et Sancho Panza de la langue, et advienne que pourra, il n'en faut pas plus pour nous contenter. Ici, la demande de plus de quichotadas, des quichotades. Et ce texte qui paraît assez simple, en fait, fait retour aussi sur la mise en texte dans le Quichotte lui-même de ses possibles réceptions. Et vous voyez ici qu'il y est fait allusion à deux éléments, l'un qui est cette théorie des humeurs qui est fondamentale pour définir des horizons de réception, et l'opposition entre jovial et saturnien est une opposition qui place sous Jupiter les humeurs de ceux qui aime la diversion, le rire, la plaisanterie, et place sous Saturne les mélancoliques. ce qui était une division des humeurs qu'on rencontre lorsque se discute aussi que dans la première partie que les relations avec les textes. Et puis, se rencontre aussi dans la seconde partie lorsque Sansón Carrasco explique la réception du Quichotte. Et il y a d'autre part cette qui fait la demande d'une seconde partie pour ceux qui en sont d'humeur joviale, plus que saturnienne, c'est le fait que d'un côté, il faut que Don Quichotte joue de la lance, agisse, le verbe ici, embistar, et que Sancho parle. Ce qui était une allusion à ce qui va devenir un élément clé pour les formes abrégées de circulation de l'histoire, qu'on va retrouver de manière très répétitive et obsessionnelle dans les titres. D'un côté, les hauts faits de Don Quichotte, ce qui est dans le titre de 1662, Vida y Hechos. Il fait, il agit, il est du côté des actions. Et d'autre part, les mots risible de Sancho, qui est du côté de ce, du parler. Il y a donc là, en quelques lignes, ce renvoi à ce double horizon de réception du Quichotte, l'un fondé sur la théorie des humeurs et l'autre fondé sur la juxtaposition dans le même texte des mots et des choses, les mots risibles de Sancho, et les choses ou actions grandioses et en même temps ridicules de Don Quichotte. Alors, Don Quichotte revient après cela et dit « Et l'auteur, qu'en pense-t-il » « Il pense, répondit Sanson, que dès l'instant qu'il aura retrouvé l'histoire, qu'il passe son temps à chercher, avec la plus extrême diligence, il la fera imprimer sur le champ. » Beaucoup plus porté, il est vrai, par l'intérêt qui en résultera que par quelque louange que ce soit. Alors on voit aussi là une autre ambiguïté, puisque finalement Cervantes déplace sur son être de fiction, son historien arabe, Sidé Amete Ben Enreli, la même relation par rapport au texte que lui a avec le Don Quichotte, donc il affirme avec le Don Quichotte, puisque finalement cet auteur, Sidé Amete Ben Enreli, est l'auteur d'une histoire que d'autres ont déjà écrite. Il cherche l'histoire. S'il la trouve, il la publie. Donc, dans ce sens-là, il est un auteur qui est, en fait, un éditeur d'un texte qui serait déjà là. Et c'est la même position, donc, que Cervantes attribue à l'historien arabe, qui est celle qu'il se donne dans le prologue de la première partie, n'être pas le père, mais le padrastro, le père putatif de cet enfant qu'est le Don Quichotte, et qu'il a trouvé, puisque c'est le récit de l'historien arabe. On est devant ces détails qui sont cette mise en abîme vertigineuse du texte dans le texte, et ici de l'attribution à Sidé Amete Ben Enreli, qui cherche une histoire dont normalement il est l'auteur, mais qu'il ne peut écrire que s'il la rencontre comme étant déjà là, par rapport à ce qui était la fiction développée par Don Quichotte, par Cervantes, dans le prologue du Quichotte. Et la fin, c'est il est vrai qu'il le fera cette seconde partie, mas del interés, l'intérêt qui en résultera que pour otra alabanza alguna, quelques louanges que ce soit, entraîne d'un côté la réplique de Sancho. Comment, s'exclama Sancho, c'est à l'argent et à l'intérêt que regarde notre auteur, eh bien ce sera merveille s'il réussit. Il ne fera que bâcler, rebâcler comme un tailleur veille de fête, et le travail qui se fait à la hâte n'est jamais vraiment fini avec tout le soin qu'il se doit. Que ce monsieur Moore, ou je ne sais qui, fasse donc attention à ce qu'il fait, car mon maître et moi lui mettrons tant de mortier sur la truelle en matière d'aventures et d'événements de toutes sortes qu'il pourra bâtir non seulement une seconde partie, mais une centaine d'autres. Le bonhomme doit penser sans doute que nous nous sommes endormis sur notre paillasse, et bien qu'il vienne un peu nous tenir le pied chez le maréchal, et il verra de quel côté on boite. Tout ce que je peux dire, c'est que si mon maître suivait mon conseil, nous serions déjà partis en campagne pour réparer les injustices et redresser les torts, ainsi qu'il est d'usage et de coutume chez les bons chevaliers errants. Donc Sancho, avec son langage qui est lui-même un tissu de proverbes et de sentences, refranes y sentencias, entre dans ce jeu de la matière donnée à la seconde partie. Mais évidemment, ce qui est derrière sont deux thèmes fondamentaux dans le Quichotte. Le premier thème, c'est celui, et qui sont liés l'un à l'autre, qui est celui de l'écriture pour l'intérêt économique, pour le profit, pour l'argent, versus l'écriture pour la renommée, la réputation, la gloire, la fama, et qui est un thème obsédant chez Cervantes, refusant cette, en quelque sorte, prostitution de l'écriture par la recherche du profit au nom de la défense de l'honneur au sens de la réputation. C'est le thème de son dialogue avec le traducteur qu'il rencontre dans l'atelier typographique à Barcelone, dans le chapitre 62 de la deuxième partie, puisque ce traducteur, lui, veut « provecho quiero », je veux gagner de l'argent. Et Cervantes le met en garde contre cette tentation. D'une part, on ne gagne pas de l'argent parce qu'on est toujours trompé par les libraires et les imprimeurs, et d'autre part, l'écriture doit être, ne doit pas être souillée par cet intérêt. Donc il y a ce thème-là qui apparaît, c'est à l'argent et à l'intérêt que regarde notre auteur, s'exclame Sancho, et il y a un deuxième thème en filigrane qui est lié avec ce premier et qui est celui des continuations. Puisque lorsque paraît le texte que j'ai lu, il existe déjà une continuation. La continuation publiée par Avellaneda, un pseudonyme jamais déchiffré jusqu'à maintenant, en 1614, qui se présente comme la segunda parte de Il ingenioso Hidalgo de la Mancha, et qui est ce texte qui utilise comme motif ce que laissait ouvert la fin du texte de 1605 de Cervantes, c'est-à-dire le déplacement, la participation de Don Quichotte au tournoi de Saragosse. Et toute la question, évidemment, est de la perception par Cervantes de la présence de cette continuation apocryphe. Elle est très claire, puisque dès les préliminaires de la seconde partie, il a des critiques tournant dérision ou se défend contre les attaques qui étaient portées contre lui par le prologue de cette seconde partie apocryphe, et qu'à partir du chapitre 59, il va, dans la seconde partie, la sienne, multiplier les allusions, les jeux, les plaisanteries avec la continuation d'Avellaneda. C'est un thème en lui-même. Le problème est que, sans doute, le texte de ce chapitre 4 avait dû être écrit avant la parution de la seconde partie apocryphe. Donc on ne peut pas le lier absolument directement, cette idée que fait de Sancho, qu'il pourra bâtir non seulement une seconde partie, mais une centaine d'autres. Mais peut-être que personne n'a jamais pu retrouver les brouillons de Cervantes, peut-être qu'il a introduit, y compris dans des chapitres déjà rédigés, à partir du moment où existait la continuation apocryphe d'Avellaneda, la continuation signée, présentée comme écrite par un certain Avellaneda, a pu modifier quelques éléments. Et là, ça, évidemment, cette idée que la force des aventures de Don Quichotte et de Sancho, lisez la force de l'écriture de Cervantes, peut-être la matière pour une centaine de secondes parties, pourrait être évidemment entendu comme une allusion ce travail bâclé et rebâclé, comme dit Sancho, d'Avellaneda se saisissant de l'invention des personnages ou de l'invention de l'histoire de Cervantes pour publier pour son profit une seconde partie avant même que Cervantes ait pu achever et publier sa propre seconde partie. Voilà donc qu'il y a là une thématique tout à fait importante qui est mise en place dans ces chapitres 4 de la seconde partie et qui pose donc évidemment plus généralement la question de la relation entre un texte et ses continuations, qui non seulement pose la question que j'ai traitée aujourd'hui avant de traiter la fois prochaine, la question de la dissémination du Quichotte, pose la question de l'ajustement textuel de l'une à l'autre et le fait que rétrospectivement un texte devient une première partie, ce qu'il n'avait pas de mission à être lorsque son auteur ignorait qu'il en écrirait une seconde, mais qui aussi pose plus généralement une question qui était présente dans le cours dès le commencement, c'est-à-dire le fait, comme vous le voyez ici, si le fait de s'emparer de personnages ou d'une histoire pour écrire une continuation qui n'est pas celle de l'auteur, mais celle d'un autre auteur, peut poser une question pour une polémique littéraire. Les échanges très aigres entre Avellaneda dans ses préliminaires et Cervantes qui lui répond dans les prologues de la seconde partie peut poser aussi une matière pour l'ironie, la satire, comme le fera Cervantes en incluant dans son propre livre de multiples allusions faites par Don Quichotte lui-même et par les autres personnages à la continuation d'Avellaneda. Elle ne pose aucun problème qui serait des problèmes contemporains, c'est-à-dire elle ne pose aucun problème de droit, elle ne pose aucun problème de plagiat, elle ne pose aucun problème d'une possibilité d'un recours pour faire condamner cette usurpation ou ce vol de texte. Et s'illustre ainsi, me semble-t-il, dans cette réflexion sur les secondes parties qui rétrospectivement transforment un texte en la première et d'autre part qui peuvent être ouvertes à des écritures qui sont non seulement celles de l'auteur écrivant une seconde partie de sa propre histoire, mais des secondes parties multipliées à l'infini par des auteurs qui s'emparent de thèmes et de caractère, de personnages à leur guise, à leur pleine liberté, me paraît désigner une rupture dans le régime de circulation des textes avec ce paradoxe qu'on avait rencontré dans le commentaire de Foucault entre des régimes de circulation des textes où le plus important est le vol du texte, c'est-à-dire le fait de s'emparer sous son propre nom d'un texte d'un autre, et des régimes de circulation des textes, comme celui de la première modernité, où le plus important, dans un sens, est le vol du nom et de la réputation, et donc d'utiliser, non pas dans le cas d'Avellaneda, mais dans le cas de Lope de Vega ou dans le cas de Shakespeare, un nom qui n'est pas le sien, pour remettre en circulation des œuvres qui sont siennes. Le cas d'Avellaneda est à la croisement des deux situations, puisque, évidemment, il s'empare d'une certaine manière du nom de Cervantes en reprenant Don Quichotte de la Manche, dont tout le monde sait quel est l'auteur, mais en même temps, ce qui est le plus important, c'est aussi pour le profit, pour l'intérêt économique, la mise en circulation d'un texte où son nom à lui n'importe pas, puisqu'il s'agit d'un pseudonyme, mais où le nom de Cervantes en écho va assurer l'attente, et il l'espère, l'achat des lecteurs. C'est une autre raison pour s'intéresser à cette question de comment la seconde partie du Quichotte a pu être élaborée ou circulée et les effets qu'elle a produits sur le rapport avec le texte de 1605. Donc pour la fois prochaine et dans le dernier séminaire ou la dernière cours, j'essaierai d'ailleurs de faire une conclusion plus générale, mais la première partie sera consacrée au mouvement inverse, c'est-à-dire comment, sous forme abrégée, ce long texte de Cervantes, en deux parties, Vida y Hechos, a pu être publié et approprié. Merci.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.